Oeil.
À la une ce midi, l'alerte d'un syndicat de l'hôpital sur des hausses de salaires excessives. On parle aussi de ce revirement du gouvernement concernant le CAVA. Et puis on terminera avec de la culture, musique et littérature sont au programme de ce journal. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
Et Lucie, on commence avec cette grogne sociale à l'hôpital.
Oui, une grogne assez inédite puisqu'un syndicat, la FISAP, conteste des hausses de salaire. Des augmentations prévues pour une partie du personnel, les infirmiers, qui attendent depuis de longues années un reclassement et des revalorisations. Mais ça ne convient pas à la FISAP. Le syndicat de Mireille Duval les juge excessives, Charles Irénée.
Oui, et la FISAP avait déjà rué dans les brancards à ce sujet. Rappelez-vous, la mi-septembre, la réforme très attendue des cadres d'emploi des infirmiers était déjà arrivée jusqu'à la séance plénière de l'Assemblée, s'apprêtait à être votée, mais avait été retirée in extremis de l'ordre du jour. Eh bien, c'était déjà le syndicat de Mireille Duval qui était à la manœuvre. Une nouvelle mouture doit être présentée ce vendredi en Conseil supérieur de la fonction publique. Mais l'ancienne cadre de CSTPFO, qui visait un temps la tête de la centrale avant de s'en séparer, reproche au texte des augmentations trop élevées pour les infirmiers du secteur public, surtout dans le contexte de rigueur budgétaire du pays. À l'entendre, ces dépenses inconsidérées vont non seulement lever d'autres revendications du côté des médecins notamment, mais vont surtout hypothéquer les chances des autres catégories d'argent en bas de l'échelle d'être revalorisées. En clair, augmenter tout le monde ou personne, voilà le message au gouvernement.
Et la FISAP estime même que le texte menace la paix sociale et le syndicat n'hésite pas à parler de grève à venir sur le sujet. Aucun autre syndicat de l'hôpital ne partage cette position, mais personne n'est réellement étonné, Charlie.
Oui, et pour une raison simple, les élections approchent dans la fonction publique territoriale et la campagne est particulièrement relevée au Taonnais, où ce sont plus de 2000 salariés qui vont voter début décembre pour leur commission administrative paritaire. Un scrutin qui définit entre autres la répartition des heures de délégation syndicale et dans lequel la fédération de Mireille Duval a gros à jouer. Elle divise pour mieux régner, accuse ses concurrents qui refusent que ce reclassement des infirmiers mené voilà plus de 15 ans en métropole soit bloqué à des fins électorales. L'objectif de cette réforme était clair, attirer et fidéliser les soignants, notamment les plus spécialisés, alors que la santé publique polynésienne a de plus en plus de mal à recruter.
Voilà, et la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique est prévue ce vendredi pour se pencher sur ces revalorisations dont le coût est estimé à un peu plus de 200 millions de francs supplémentaires. À noter que d'autres chantiers de reclassement ou de revalorisation ont aussi été lancés pour d'autres catégories de personnel hospitalier.
2300 à 3400 emplois supplémentaires, c'est le plan stratégique emploi, formation et compétences.
Il a été présenté hier en Conseil des ministres par Vanina Crolla, un plan qui doit être développé jusqu'à 2028 et qui vise avant tout les secteurs stratégiques comme le tourisme, l'énergie, le numérique ou l'agriculture. Il s'agit de mieux anticiper les besoins du marché du travail, d'adapter et de rendre plus lisible l'offre de formation, de moderniser les outils de recherche pour les demandeurs d'emploi et aussi de réformer la loi sur l'emploi local pour garantir une réelle priorité aux Polynésiens et ainsi peut-être réussir à ouvrir 2300 à 3400 emplois supplémentaires.
Et puis ce revirement du gouvernement sur le CAVA.
C'était oui, mais c'est finalement non. Le gouvernement avait levé les restrictions d'import et de vente des racines et des préparations de cette plante, mais vient finalement de prendre un arrêté pour mieux cadrer sa mise sur le marché en cause des effets et des risques sur la santé. Le pays semble surtout vouloir éviter le développement sauvage de Nakamal, les bars à cava très populaires en Nouvelle-Calédonie ou au Vanuatu.
On parle maintenant de cette vaste opération de modernisation des balises à Moréa.
Oui, des travaux de modernisation effectivement du balisage maritime qui sont en cours tout autour de Moréa depuis le mois de mai. Un chantier à 160 millions de francs cofinancé par l'État et le pays pour renforcer la sécurité dans le lagon qui est de plus en plus fréquenté. Ce sont une centaine de balises qui vont être modernisées, reconstruites et dépolluées aussi. L'opération devrait s'achever en octobre de l'année prochaine, mais c'est à l'échelle du pays qu'un travail va être mené sur les 1700 balises et signalements pour un total de 300 millions de francs.
Et puis le congrès mondial de la nature à Abu Dhabi commence aujourd'hui.
Oui, et on vous en parle car des motions ont déjà été adoptées avant même que cette réunion internationale commence, dont une sur les lentilles d'eau douce des atolls. C'est la première fois qu'un texte de portée internationale concernant ces écosystèmes est adopté. Le bureau d'études spécialisé en hydrologie Veille Natura salue une victoire importante. On écoute la responsable hydrologie et stratégie Anne Caillot.
C'est la première fois qu'un texte est adopté au niveau international sur les lentilles d'eau douce des atolls. C'est un sujet qui est assez méconnu en fait au niveau mondial, le fait que l'eau douce dans les atolls, c'est assez particulier. C'est en fait un aquifère qui se trouve sous les motons et qui est très fragile parce qu'il y a l'eau de mer, du lagon et l'eau de l'océan qui rentre par les deux côtés. Et donc si on l'appuie trop, elle peut très vite se saliniser.
Alors comment se forment ces lentilles d'eau douce? Pas de rivière ni de lac sur les atolls, mais des réserves en sous-sol où l'eau douce forme une nappe au-dessus de l'eau salée. Les grosses fausse houle ou une utilisation excessive peuvent rompre l'équilibre fragile de cet écosystème et il faut beaucoup de temps pour qu'elle revienne à son équilibre original, comme l'explique Anne Caillot.
Il faut au moins 9 mois pour que la lentille d'eau en fait retrouve sa salinité d'avant. Donc c'est quand même un processus assez long. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lentille d'eau, c'est pas comme une baignoire, c'est-à-dire que ça se recharge pas quand la pluie tombe, parce que en fait il y a un effet avec la densité du sable, etc. Il y a un effet où la pluie se rejette directement dans le lagon quand la lentille d'eau est pleine. En fait, c'est un processus de recharge qui est très très lent et c'est pour ça qu'il ne faut pas arriver à un moment où la lentille se salinise, parce qu'après ça va remettre au moins 9 mois, on l'a vu, et peut-être plus pour se recharger. Ça dépend si on pompe ou si on ne pompe pas.
Le laboratoire Veil Natura qui travaille sur ces écosystèmes depuis 7 ans maintenant, mais c'est une exception. Ces lentilles d'eau douce dans les atolls sont encore peu étudiées. L'adoption de cette motion à Abu Dhabi est la preuve pour Veil Natura que protéger les lentilles d'eau douce des atolls, c'est une affaire internationale. Un sujet sur lequel la Polynésie est en première ligne.
Alors c'est bientôt l'heure de manger, ou peut-être que vous êtes déjà à table, mais en tout cas voici un livre qui va vous mettre en appétit.
Un boucher de tartare de korori aux saveurs japonaises, tarte fine au thon et parmesan, poulet pané au coco, sauce curry, ananas et enfin beignet de pommes étoiles, voilà quelques-unes des recettes de Meharika. Ça veut dire trop bon en français. C'est le premier livre de cuisine de Mahiata Smith qui après la télé et la radio voulait publier ses coups de cœur et surtout montrer qu'avec les produits locaux, eh bien on peut tout faire.
Je voulais démontrer qu'avec les produits locaux, on pouvait cuisiner de l'apéritif au dessert. Donc c'est vraiment l'opportunité pour chacun de retrouver des idées diverses pour pouvoir travailler et cuisiner nos produits, parce que bon, j'utilise dans mes recettes 80% de produits locaux. Peu importe où tu vis dans le monde, il est important de valoriser ces produits, les produits de terroir. Nous avons la chance d'avoir énormément, enfin une diversité de produits très intéressante.
Et sa première inspiration, c'est sa famille, une grand-mère, une mère, une grande sœur, toute cuisinière et un père pêcheur. Elle est née dans une marmite, comme elle aime dire. Mais si la cuisine, c'est vraiment son truc, ce n'est qu'à 40 ans qu'elle a décidé de se reconvertir pour suivre son rêve, devenir chef et surtout réussir à faire aussi bien que sa grand-mère.
C'est véritablement la façon dont ma grand-mère, elle cuisinait. Elle avait cette façon de transformer, enfin de cuisiner avec autant de saveurs, avec peu de choses en fait, puisqu'à l'époque, c'est-à-dire il y a déjà plus de 50 ans, hein, cuisiner des produits déjà en frais, donc de la terre comme de la mer. Et elle avait peu de condiments, et puis on n'avait pas autant d'épices qu'aujourd'hui, mais elle arrivait à nous préparer des plats avec sa petite touche qui faisait que tu avais une explosion de saveurs en bouche. Ça m'a toujours fascinée.
Voilà, Meharika s'est donc sorti aux éditions Au Vent des Îles et Mahiata Smith sera en dédicace à la librairie Odyssée ce samedi de 9h à midi.
Et on termine avec cette annonce, c'est John Menezes qui assurera la première partie du concert de Patrick Bruel.
Oui, parce que vous le savez, SA Production reçoit Patrick Bruel ce 31 octobre en concert à Toata et on peut enfin vous annoncer l'artiste qui sera en première partie, John Menezes. L'occasion pour le chanteur de fêter ses 25 ans de carrière et puis surtout de vivre un rêve, puisque Patrick Bruel à Tahiti, c'était son premier concert d'une star internationale auquel il assistait. Une révélation, il nous a raconté.
Et mon tout premier concert d'un artiste international. C'est génial, j'ai chanté toutes les chansons. Le public était hystérique parce que c'est l'époque où il était à l'apogée de sa carrière. Donc toutes les meufs, elles étaient hystériques à gueuler, et moi aussi. Donc plus de voix à la fin, et franchement, mes étoiles plein les yeux. C'est gravé, ouais. C'est gravé. Après, je me suis dit, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est ça que je vais faire plus tard. Parce que c'est la première fois que je voyais vraiment l'impact d'un artiste sur scène. C'était impressionnant. Et là, tu voyais que tous les gens étaient unis autour de la musique. Voilà, c'était génial.
Et donc, 33 ans plus tard, se retrouver sur scène à Toata en première partie de son idole, c'est forcément une expérience intense à laquelle John Menezes se prépare. Il avoue d'ailleurs être un peu stressé.
33 ans après, me revoilà qui célèbre cette année mes 25 ans de carrière professionnelle et surtout qui fait la première partie de Patrick Bruel. J'aurais jamais pensé un jour faire sa première partie en tout cas. Là, je le prépare avec trois super musiciens. On a à peu près 5 morceaux. Oui, on va vous préparer quelque chose d'explosif pour chauffer le public et pour lui faire un accueil de malade après 33 ans. Voilà, ça sera quand même quelque chose d'assez mémorable et ça va rester gravé en tout cas. Moi qui ne stresse jamais sur scène, peut-être que là, ouais.
On le retrouvera donc sur scène à Toata avec trois musiciens. Une nouvelle formation d'ailleurs dont on devrait entendre parler, puisqu'après ce concert, John Menezes va sortir avec eux sa première composition d'ici le mois de novembre. Et en attendant, donc rendez-vous le 31 octobre sur Toata.
Et les billets sont en vente sur ticketspacifique.pf dans les magasins Carrefour. Et bien sûr, à l'accueil de vos radios préférées, ici à Faréouté. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup Lucie.
Et prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 16h pour le Flash.
Et voici la météo sur Radio.